Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
16h, temps universel. Nous sommes le vendredi 19 avril. Et au sommaire de cette édition, trois explosions sur le sol iranien la nuit dernière. Les regards se portent sur Israël, même si Israël ne commente pas cette attaque. Les réactions internationales, elles, sont prudentes. Nous y revenons dans un instant avec Christophe Paget. La panique cet après-midi au consulat d'Iran à Paris. Plus de peur que de mal. On vous explique tout ça dans un instant. Et puis nous parlerons de drogue dans ce journal. Le trafic de cocaïne, de cannabis, de tramadol est en nette hausse, est en augmentation sur le continent africain. Plus précisément dans la région sahélienne. Voilà pour les titres. Des explosions en Iran la nuit dernière. Il était 5h30, heure locale, lorsque les autorités iraniennes font état de trois explosions survenues près d'une base militaire dans le centre du pays, dans la région d'Ispahan. Si Israël n'a pas revendiqué l'attaque, si Israël n'affirme pas être à l'origine de ces explosions, pour Pierre Razou, invité des RFI ce matin, directeur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, il ne fait aucun doute qu'Israël a riposté la nuit dernière à l'attaque iranienne du week-end dernier.
Israël a procédé à ce qu'on appelle un signalement stratégique, c'est-à-dire à des frappes très limitées, destinées à démontrer leur capacité, les capacités d'Israël à pénétrer les défenses iraniennes et frapper loin en profondeur. Puisqu'il semblerait qu'ils aient frappé avec des drones autour d'Ispahan, Ispahan étant un objectif significatif, puisqu'il y a deux installations nucléaires dont Natanz à proximité, sans toutefois taper ces installations nucléaires.
Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
Après ces explosions sur le territoire iranien la nuit dernière, je le disais, des réactions internationales encore prudentes.
Oui, déjà, celles d'Israël, censées, selon les hauts responsables américains cités par la presse, être responsables de l'attaque. Israël qui réagit en disant ne pas avoir de commentaires pour le moment, ni confirmation, ni infirmation. Donc, les États-Unis, soutien d'Israël, disent eux ne pas avoir été impliqués dans une opération offensive. Là encore, pas de confirmation d'une quelconque attaque. Tout le monde est très prudent. Car le maître mot ce vendredi, le message que tout le monde veut faire passer, c'est désescalade. C'est d'ailleurs ce à quoi a appelé ce vendredi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec les autres chefs de la diplomatie du G7.
Et c'est aussi ce à quoi appelle le reste de la communauté internationale, Christophe, qui redoute une guerre totale entre l'Iran et Israël.
Alors, l'attaque n'a pas été confirmée, on l'a dit, mais tout le monde la commente indirectement, en encourageant, comme la Russie, toutes les parties à la retenue, ou en s'opposant, comme la Chine, à toute action susceptible d'entraîner une escalade des tensions. Même son de cloche du côté de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ajoute quand même qu'aucun dégât n'a été signalé sur les sites nucléaires iraniens. Seul Oman, pays du Golfe, qui a longtemps joué les médiateurs entre Téhéran et les pays occidentaux, parle clairement d'une attaque israélienne qu'il condamne, tout comme, je cite, « les agressions militaires répétées d'Israël dans la région ».
Merci Christophe. Dans votre journal en français facile, en pleine guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité des Nations Unies, la plus haute instance de l'ONU, était invité la nuit dernière à se prononcer sur une adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies, une mesure qui serait revenue à reconnaître l'existence d'un État palestinien. À l'issue du vote, 12 pays sont pour, 2 s'abstiennent, 1 est contre. Les États-Unis sont contre et utilisent ainsi leur droit de veto. C'est-à-dire qu'à eux seuls, les États-Unis peuvent refuser la résolution. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Le vice-ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Robert Wood, s'en explique.
Les États-Unis continuent de soutenir fermement la solution de deux États. Ce vote ne reflète pas une opposition à un État palestinien, mais il est une reconnaissance qu'il ne peut naître que de négociations directes entre les parties.
Et pendant ce temps-là, la guerre à Gaza se poursuit avec ce chiffre communiqué par le ministère de la Santé du Hamas qui annonce aujourd'hui que le bilan a dépassé les 34 000 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier. RFI à Paris, 18h05, c'est dans ce contexte de guerre et de conflit au Proche-Orient qu'aujourd'hui à Paris, non loin de la Tour Eiffel, un homme a été interpellé par la police. Il avait été aperçu avec une grenade ou une ceinture d'explosifs par un passant devant le consulat d'Iran. L'homme aurait menacé de se faire exploser dans le consulat. Tout le quartier a alors immédiatement été bloqué par un important dispositif policier. Valentin Hugues, bonjour.
Bonjour.
Finalement, il n'y avait pas d'explosifs et l'homme s'est rendu rapidement à la police.
Oui, la menace a été prise très au sérieux dans un contexte extrêmement tendu au Proche-Orient et avec le niveau urgence attentat en France, plus haut niveau de vigilance. Alors immédiatement après l'alerte, à la mi-journée, tout le quartier a été fermé et c'est la BRI, une unité d'élite de la police française qui est intervenue. L'homme se serait rendu de lui-même à la police. Il portait un gilet noir. Avec en réalité trois fausses grenades. Et dans le consulat, la BRI n'a trouvé aucune matière explosive. Les barrières ont alors été retirées petit à petit. La circulation a pu reprendre, sauf dans la rue du consulat où la police ne laissait entrer que les habitants de la rue. Le suspect, lui, est interrogé par la police.
Et nous en savons d'ailleurs un peu plus sur le suspect. Il avait déjà menacé le consulat d'Iran.
Oui, l'année dernière, cet homme né en 1963 en Iran avait mis le feu à des roues de voiture devant l'ambassade d'Iran, le bâtiment collé au consulat, un acte qu'il avait revendiqué. Il protestait ainsi contre le régime iranien. Condamné à 8 mois de prison, il avait interdiction de se rendre dans le 16e arrondissement de Paris, où se situent le consulat et l'ambassade d'Iran.
Merci Valentin. Valentin Hugues dans votre journal en français facile. Souvenez-vous, il y a un mois, un proche d'Alexeï Navalny, célèbre opposant à Vladimir Poutine, était violemment agressé en bas de chez lui, en Lituanie. Il s'appelle Leonid Volkov. Il avait été frappé environ 15 fois devant son domicile à Vilnius, la capitale lituanienne. Un mois après les faits, le président lituanien annonce aujourd'hui que 2 personnes soupçonnées de cette agression ont été arrêtées aujourd'hui en Pologne et placées en détention.
Le journal en français facile.
La drogue, à présent. Le trafic de drogue augmente fortement au Sahel. C'est ce que nous dit le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Sur les dernières années, l'ONU a observé une croissance importante de la production de consommation de cocaïne, de cannabis, mais aussi de tramadol dans la région sahélienne, allant de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Sidi Yansané, bonjour.
Bonjour.
Comment explique-t-on cette hausse du trafic de drogue dans cette région ?
Alors commençons d'abord par la cocaïne. Les saisies, c'est-à-dire les stocks de drogue découverts et confisqués par les forces de l'ordre, eh bien ces saisies sont passées de 13 kilos par an entre 2015 et 2020 à près de 1500 kilos en 2022 dans le Sahel. L'explication de cette forte hausse, c'est d'abord parce que l'Afrique de l'Ouest a toujours été un point de passage, une escale si vous préférez, entre l'Amérique du Sud où l'on fabrique la cocaïne et l'Europe où il y a les principaux consommateurs. Et comme la consommation européenne augmente, il y a de plus en plus de cocaïne qui passe par l'Afrique. Dans le Sahel, il y a aussi beaucoup de trafic de cannabis venu du Maroc. Au Niger, par exemple, en 2021, les autorités ont récupéré tellement de cannabis que cela pouvait remplir tout un conteneur. Il y a aussi ce qu'on appelle les opioïdes. Ce sont des médicaments qui servent à calmer la douleur. Le plus connu, c'est le tramadol et il est surtout consommé par les femmes ou dans les métiers différents. Comme l'agriculture ou chez les transporteurs. Et c'est tellement grave et inquiétant qu'entre 2017 et 2021, presque la totalité du tramadol saisi dans le monde était en Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup Sidi Yansané. Et puis enfin pour la défense de l'environnement, des jeunes ont manifesté aujourd'hui en Italie, à Rome, mais aussi à Turin. Ils étaient environ 1 000 000 à descendre dans la rue. Manifestation à l'appel du mouvement écologiste créé par la militante Greta Thunberg. Des jeunes qui réclament aux responsables politiques italiens des mesures efficaces pour défendre l'environnement. changer la société, pas le climat, pouvait-on lire sur l'une des banderoles. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Place au Café des Sports.